Chapitre 23e. Mrs. Slope fait de la diplomatie à Puddingdale. Les deux semaines suivantes se passèrent fort agréablement à Plumstead, dans la plus parfaite entente. Eleanor fut charmante, et l'archidiacre et Mrs. Grantly semblèrent avoir oublié les méfaits de leur sœur relativement à Mrs. Slope. M. Harding avait son violoncelle et en jouait, accompagné par ses filles. Johnny Bold, grâce soit à M. Rarechild, soit au rocher de corail et au jus de carotte, avait cessé de souffrir de sa dentition. Il y avait eu des distractions de toutes sortes. On avait dîné à Yola Thorne et les Thorne avaient dîné à Plumstead. M. Arabin avait fait de fréquentes excursions dans sa paroisse. Il avait surveillé les travaux de réparation, visité ses paroissiens. Il était entré pleinement dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, mais il était revenu chaque soir à Plumstead et Mrs. Grantly commençait à reconnaître qu'il était d'une agréable société. Il y avait eu encore chez le docteur Stanhope un dîner auquel avait été invité M. Arabin. Lui aussi avait brûlé ses ailes à la flamme de la signora. Mrs. Bold, qui était là, avait été un peu irritée du manque de goût, c'était son expression, dont avait fait preuve M. Arabin en se montrant aussi attentif auprès de Mme Neroni. Madeleine devait aussi infailliblement déplaire aux femmes que charmer les hommes. C'était d'ailleurs une conséquence naturelle. M. Arabin avait subi le charme, en effet. Il la trouvait une femme très intelligente et très jolie, et il pensait que son infirmité lui était un titre à la sympathie de tout le monde. Il n'avait jamais rencontré, disait-il, une si cruelle affliction unie à tant de beauté et à tant d'esprit. C'est en ces termes qu'il parlait de la signora, dans la voiture qui les ramenait à Plumstead, et ses éloges déplurent à Eleanor. Il était d'ailleurs très injuste à elle de concevoir de l'irritation contre M. Arabin. Elle avait elle-même passé une très agréable soirée avec Bertie Stanhope, qui l'avait conduite à table et ne l'avait pas quittée un instant à partir du moment où les hommes étaient sortis de la salle à manger. Il n'était pas bien qu'elle s'amusât avec Bertie et qu'elle refusât à son nouvel ami le droit de s'amuser avec la sœur de Bertie. Il en était ainsi pourtant. Elle ne fut pas aimable pour lui dans la voiture et lança l'expression de manège de courtisane. M. Arbin ne connaissait pas le cœur des femmes. Sans cela, il aurait pu se flatter qu'Eleanor l'aimait. Mais non, Eleanor ne l'aimait pas. Combien de degrés il y a entre l'amour et l'indifférence? Elle avait vécu près de 3 semaines dans la même maison que M. Arabin. Elle l'avait trouvé attentif pour elle au point que chaque jour, il lui consacrait à elle exclusivement une partie de la soirée. Chez le docteur Stanhope, il s'était donné tout entier à une autre femme. Il n'est pas nécessaire qu'une femme soit amoureuse pour être irritée d'une conduite de ce genre. Et même Eleanor n'avait nullement conscience que ce fût par rapport à elle-même qu'elle éprouvait cette irritation. C'était pour M. Arabin qu'elle regrettait qu'il pût condescendre à trouver du plaisir dans la société de la signora. « Je le croyais plus sérieux », se dit-elle, assise près du berceau de Johnny après leur tour à Plumstead. « Après tout, je trouve que M. Stanhope est le plus agréable des deux. » Hélas, que devenait le souvenir du pauvre John Bold? Eleanor n'aimait pas Bertie Stanhope, elle n'aimait pas M. Arabin, mais sa dévotion à la mémoire de son mari s'affaiblissait rapidement. Quand elle pouvait, penchée sur le berceau de son enfant, repasser dans son esprit les fautes ou les faiblesses de nouveaux prétendants à sa faveur. En réalité, Eleanor n'aimait pas plus d'ailleurs, que M. Arabin. Bertie Stanhope n'aimait pas davantage, quoique déjà il eût trouvé occasion de dire à peu près qu'il était amoureux. Le bonnet de veuve l'avait empêché de faire une déclaration formelle. Sans lui, il se serait cru autorisé à la faire à la troisième ou à la quatrième entrevue. Ce bonnet, il faut le dire, avait perdu beaucoup de ses dimensions premières. Il n'avait plus rien d'un saule pleureur, car il est curieux d'observer par quelles gradations insensibles ces emblèmes de deuil disparaissent peu à peu. Donc, Eleanor n'avait d'amour pour personne, et personne n'en avait pour elle. Aussi, son dépit contre M. Arbin ne fut-il pas de longue durée, et 2 jours après, ils étaient aussi bons amis que jamais. Elle avait du plaisir à se trouver avec lui, car avec lui les heures se passaient agréablement. Et pourtant, une chose lui déplaisait. Dans la conversation, il semblait toujours laisser voir qu'il ne se donnait pas la peine d'être sérieux. il paraissait jouer avec un enfant. Elle savait quelle était la gravité de ses pensées et la hauteur de son esprit, et cependant avec elle, il était toujours enjoué. Si une fois elle avait vu un nuage sur son front, peut-être aurait-elle appris à l'aimer. Tandis que les choses avaient à Plumstead un cours plaisant, un orage se formait à l'horizon, qui vint éclater, crever furieusement sur nos amis. En quelques minutes, la face du ciel fut changée. On s'était quitté après le déjeuner en parfaite harmonie. Avant le soir, les cœurs étaient agités de passions violentes qui ne permirent pas à nos cinq personnages de s'asseoir à la même table au dîner. Mais il faut retourner un peu en arrière. On se rappelle que l'évêque avait exprimé à M. Slope son intention que M. Quiverful fût confirmé dans sa nomination aux fonctions de conservateur de l'hospice et que sa seigneurie avait chargé M. Slope de communiquer cette décision à l'archidiacre. On se rappelle aussi que l'archidiacre avait refusé de voir M. Slope et avait écrit à l'évêque une lettre dans laquelle il réclamait énergiquement la place pour M. Harding. M. Slope répondit immédiatement que l'évêque avait reçu la lettre de l'archidiacre et qu'il la prendrait en grande considération. L'archidiacre sentit qu'il était battu. Que faire avec un homme qui ne voulait ni le voir, ni discuter par lettre, et qui avait le pouvoir incontestable de donner la position à qui il lui plaisait? Il avait consulté M. Arabin, qui lui avait donné le conseil d'appeler à son aide le docteur Gwine. « Si, lui dit-il, vous et le docteur Gwine annoncez formellement l'intention de faire une visite à l'évêque, il n'osera pas refuser de vous voir, et si deux hommes comme vous le voient ensemble, il n'est pas douteux que vous n'ayez gain de cause. » Il en coûtait un peu à l'archidiacre d'admettre qu'il lui fut nécessaire, à lui, d'avoir un appui étranger pour se voir ouvrir la porte du palais épiscopal de Barchester. Il sentit pourtant que l'avis était bon, et il résolut de le suivre. Il écrivit de nouveau à l'évêque, exprimant l'espoir que rien ne se ferait, touchant à la nomination, jusqu'à ce que sa seigneurie eût mûrement étudié la question ainsi qu'elle le lui avait promis. Puis il envoya un pressant appel à son ami, le conjurant de venir à Plumstead pour l'aider à avoir raison de l'évêque. Le docteur Gwine avait soulevé des difficultés sans opposer un refus formel, et l'archidiacre avait renouvelé ses prières, insistant sur la nécessité d'une action immédiate. Malheureusement, le docteur Gwine avait la goutte et ne pouvait fixer de jour. Il promit néanmoins de venir, s'il le fallait absolument. Mais M. Harding était soutenu par un autre ami, aussi puissant que le docteur Gwine, c'était M. Slope. Malgré la volonté exprimée par l'évêque de donner satisfaction à sa femme, M. Slope ne se tenait pas pour battu. Il croyait avoir de jour en jour plus de raison d'espérer que la veuve accueillerait favorablement ses ouvertures, et il pensait bien que M. Harding, à l'hospice, conservateur grâce à lui, serait plus disposé à l'accepter pour gendre que M. Harding déçu, irrité et encouragé à l'opposition par l'archidiacre. De plus, pour rendre justice à M. Slope, il agissait par des mobiles plus élevés que celui-là. Il lui fallait une femme, il lui fallait de l'argent, mais il lui fallait plus encore du pouvoir. Il savait qu'il lui faudrait en venir aux hostilités déclarées avec Mrs. Proudie, et n'avait nul désir de rester à Barchester comme son chaplain. Quoi ? Devait-il se sentir un homme de talent peu ordinaire ? Devait-il se savoir courageux, constant et dans les matières où la religion n'était pas intéressée, au-dessus des scrupules vulgaires, pour se contenter d'être l'humble factotum d'une femme évêque? M. Slope avait une plus haute idée de sa destinée. Il fallait que de lui ou de Mrs. Proudie l'un vainquît l'autre, et le moment était venu de lutter pour la victoire. L'évêque avait déclaré que M. Quiverful serait conservateur de l'hospice. En descendant l'escalier du palais pour recevoir l'archidiacre, tout en sachant bien que l'archidiacre se refuserait à le voir, M. Slope s'était dit à lui-même que ce serait M. Harding qui aurait l'emploi. Il se rendit en conséquence à Puddingdale, où il eut une nouvelle entrevue avec le digne prêtre. M. Quiverful était réellement un excellent homme. La tâche impossible de donner une éducation distinguée à 14 enfants, avec un revenu insuffisant déjà pour pourvoir aux nécessités de la vie, avait émoussé chez lui la délicatesse du sentiment de l'honneur. Qui peut se vanter que dans les mêmes conditions, il ne subirait pas la même influence. M. Quiverful était un homme honnête, laborieux, dur à lui-même, toujours préoccupé de donner aux siens le pain et la viande, préoccupé de satisfaire les réclamations de son boucher et de faire patienter la boulangère par d'aimables sourires, mais préoccupé aussi d'être toujours en paix avec sa conscience. Il n'était pas soucieux, comme l'aurait été un confrère plus fortuné, de se bien poser parmi ceux qui l'entouraient, d'éviter un méchant bruit qui eût porté atteinte à son honneur. C'était là un luxe de considération qu'il n'avait pas les moyens de se permettre. Il lui suffisait d'avoir l'honnêteté vulgaire, de se conduire selon les règles de la stricte justice. Il laissait les mauvaises langues se donner carrière sur son compte. Il avait senti que ses confrères, des amis ou des connaissances d'au moins 20 ans, lui battaient froid depuis le jour où il s'était montré disposé à s'incliner devant M. Slope. Il avait vu leur froideur s'augmenter encore, quand le bruit s'était répandu qu'il allait être nommé à l'hospice. Il en souffrait, mais c'était là une croix qu'il était bien forcé de porter. Il pensait à sa femme qui, depuis 6 ans, avait la même robe de soie. Il pensait à toute sa jeune famille qu'il ne pouvait guère amener avec lui le dimanche à l'église, faute de chaussures et de bas en bon état. Il pensait aux manches râpées de son habit noir et au visage renfrogné du drapier quand il lui demanderait l'étoffe pour en faire faire un autre. D'autre part, il pensait à la maison riante dans l'hospice, aux revenus confortables de l'emploi, à ses garçons allant à l'école, à ses filles, dans les mains desquelles les livres remplaceraient les aiguilles à repriser, à la figure de sa femme redevenue souriante, à l'abondance de sa table. Il pensait à tout cela, et quoi d'étonnant s'il avait vu et révéré dans M. Slope le dispensateur de tant de biens. Combien sont beaux, sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Et pourquoi donc le clergé de Barchester battait-il froid à M. Quiverful? N'avait-il pas tous montré qu'il n'était pas indifférent aux biens que dispense l'Église? N'avait-il pas su, tous, s'assurer par tous les moyens une situation meilleure que n'était la sienne? Il n'était pas chargé de famille comme il l'était lui-même. Le docteur Grantly avait 5 enfants et autant de 1000 livres de revenus pour les nourrir. Il était bien à l'aise pour tourner le dos à un évêque nouveau qui ne pouvait rien pour lui, et à un chapelain qu'il dédaignait même de connaître. Mais il était cruel à un homme si bien pourvu des dons de la fortune de susciter des inimitiés au père de 14 enfants, parce qu'il était anxieux de leur procurer les nécessités de la vie et les bienfaits de l'éducation. Il n'avait pas, lui, M. Quiverful, demandé la place. Il ne l'avait même pas accepté avant d'avoir reçu l'assurance que M. Harding la refusait. Combien il était injuste de lui faire un grief d'une conduite qu'on lui reprochait comme un acte de folle imprévoyance de n'avoir pas tenu. Le pauvre M. Quiverful avait donc ses ennuis dans l'affaire de l'hospice, mais il avait aussi ses consolations, plus vives encore que les ennuis. Le malgracieux drapier avait entendu parler de la nomination. Tout son magasin était à la disposition de M. Quiverful. Les événements prochains projettent, pour ainsi dire, leur ombre sur le présent, et le fait prochain de la promotion de M. Quiverful à Barchester avait projeté une ombre délicieuse sous la forme d'une nouvelle toilette pour Mrs. Quiverful et les 3 aînés de ses filles. Des consolations de ce genre allaient au cœur d'un homme, plus encore au cœur d'une femme. Le mari était libre d'avoir ses sentiments à lui. La femme s'inquiétait fort peu des regards courroucés d'un doyen, d'un archidiacre, d'un chanoine. Le monde était concentré pour elle dans son mari et ses 14 enfants. Sa seule ambition était de voir son mari, elle et ses enfants, bien vêtus et bien nourris. Peu lui importaient les droits imaginaires des autres. Elle s'impatientait quand son mari lui déclarait qu'il n'accepterait l'hospice que si M. Harding le refusait. Son mari avait bonne grâce à faire le Don Quichotte aux dépens de 14 enfants. Maintenant qu'elle avait l'assurance formelle non seulement de M. Slope, mais de Mrs. Proudie elle-même, elle pouvait attendre avec sécurité la bonne fortune promise. Mais elle avait un frisson à la pensée que les hésitations de son honnête homme de mari avait failli tout compromettre. « Je ne sais pas ce que veut dire votre père quand il parle tant de ce qui est dû à M. Harding, » disait-elle à sa fille aînée. « Croit-il que M. Harding lui donnait 450 livres par an par pure bonté d'âme? Qu'importe à qui il déplaise du moment qu'il tient la place. Je suis confondu de voir votre père si discret, alors que les autres cherchent à prendre de toutes mains. » Ainsi, tandis qu'au dehors on accusait M. Quiverful de rapacité et d'un manquement à l'honneur, chez lui on le prenait vivement à partie parce qu'il sacrifiait l'intérêt des siens, un sentiment de délicatesse mal entendu. tant il est vrai que les choses ont un aspect différent, selon le point de vue duquel on les considère. Tels étaient les sentiments des divers membres de la famille de Puddingdale quand M. Slope fit sa seconde visite. Aussitôt que Mrs. Quiverful vit son cheval monter l'avenue qui conduisait à la cure, elle saisit vivement son panier à ouvrage et se précipita avec sa fille hors de la pièce où elle était avec son mari. « C'est M. Slope, » dit-elle. « Il vient régler l'affaire avec vous. J'espère que nous allons pouvoir déménager sans retard. » Elle se hâta d'aller dire à la bonne de courir à la porte afin que le grand homme n'eût pas à attendre. M. Slope trouva M. Quiverful seul. Mrs. Quiverful descendit à la cuisine avec un battement de cœur, craignant presque que quelque obstacle ne vînt se dresser entre la coupe du bonheur et les lèvres de la jouissance, et se rassurant néanmoins par la réflexion qu'après ce qui s'était passé, rien de tel n'était à appréhender. M. Slope fut tout sourire en serrant la main de son collègue. Il lui dit qu'il venait pour mettre M. Quiverful au courant des faits relatifs à la nomination. Un coup d'œil jeté sur M. Slope suffit au père et à l'époux infortuné pour comprendre que ses brillantes espérances étaient anéanties et que son visiteur n'avait d'autre objet que de se dédire de ce qu'il avait promis dans sa première entrevue. Il conserva néanmoins son sang-froid, sourit d'un sourire insignifiant et dit simplement qu'il était obligé à M. Slope de la peine qu'il avait prise. « Ça a été une ennuyeuse affaire du commencement à la fin, » dit M. Slope. Et l'évêque ne sait que faire. Entre nous, mais ceci, naturellement, ne doit pas aller plus loin, M. Quiverful. » M. Quiverful répondit naturellement que non. La vérité est que le pauvre M. Harding ne savait pas trop ce qu'il voulait. Vous vous rappelez notre dernière conversation, sans doute. M. Quiverful affirma qu'il se la rappelait très bien. Vous vous souvenez que je vous ai dit que M. Harding refusait de retourner à l'hospice. M. Quiverful affirma qu'il avait ce souvenir très net. Et me fondant sur ce refus, je suggérais que vous pourriez prendre l'emploi. J'ai compris, d'après vos propres paroles, que l'évêque vous avait autorisé à me l'offrir. Vraiment? Et j'étais si loin que cela? Ma foi, c'est possible. J'étais si désireux de vous servir que je me suis peut-être trop engagé. Autant que je puis me le rappeler, je ne crois pas être allé si loin. Mais dans mon impatience de vous être utile, j'ai pu dire plus que je n'aurais dû. Mais, dit M. Quiverful, ma femme a reçu de Mrs. Proudie une promesse absolument formelle. M. Slope sourit et secoua doucement la tête. Son sourire voulait être agréable. Il fut diabolique pour le pauvre prêtre qui lui parlait. « Mrs. Proudie, » dit-il, « si nous faisons intervenir dans la discussion de nos affaires ce qui se passe entre les femmes, nous serons pris dans un réseau de difficultés dont nous ne pourrons nous dégager. Mrs. Proudie est la meilleure des femmes, bienveillante, charitable, pieuse, estimable en tout point. Mais, mon cher monsieur Quiverful, l'administration du diocèse n'est pas dans ses mains. » M. Quiverful resta un moment consterné et muet. « Dois-je conclure alors que je n'ai reçu aucune promesse ?» dit-il aussitôt qu'il eut rassemblé ses esprits. « Si vous voulez me le permettre, je vous dirai exactement où en sont les choses. Assurément, vous avez reçu une promesse conditionnelle basée sur le refus de M. Harding. Vous voudrez bien vous rappeler ceci. Vous-même m'avez déclaré que vous n'accepteriez l'emploi qu'avec la certitude du refus de M. Harding. Oui, je l'ai dit, certainement. Eh bien, il ne refuse pas. Mais vous m'avez dit répéter qu'il avait refusé devant vous. J'avais compris ainsi. Il paraît que je me suis trompé. Mais ne supposez pas un moment, M. Quiverful, que je veuille vous jeter par-dessus bord, non. J'ai tendu la main à un homme digne d'intérêt, comme vous l'êtes, chargé de famille, pressé par le besoin, je ne la retirerai pas. Je ne vous demande qu'une chose, c'est d'agir avec moi loyalement et honnêtement. Quoi que je fasse, mes intentions au moins auront été loyales, dit le pauvre homme, faisant appel à tout son esprit de résignation et de sacrifice. J'en suis certain, dit l'autre. Je suis certain que vous ne désirez pas obtenir la jouissance d'un traitement qui appartient de plein droit à un autre. Personne ne connaît mieux que vous l'histoire de M. Harding. Personne ne peut avoir plus d'estime que vous pour son caractère. M. Harding désire vivement reprendre son ancien emploi, et l'évêque se sent, non pas certes lié, mais un peu gêné par la conversation qui a eu lieu entre vous et moi. « Eh bien ?» dit M. Quiverful, ne sachant quelle attitude prendre dans la circonstance et incapable d'ailleurs de se raidir pour la lutte comme l'aurait fait sa femme. La place de conservateur de ce petit hospice n'est pas le seul avantage que puisse conférer l'évêque, et ce n'est pas de beaucoup le plus considérable. Il n'est pas homme à oublier un prêtre dont il a une fois apprécié les mérites. Si vous vouliez me permettre un conseil d'ami...
« En vérité, je vous en serais bien reconnaissant, » dit le pauvre curé de Puddingdale.
« Je vous engagerai à vous retirer devant la candidature de M. Harding. Si vous persistez dans votre demande, je crains que vous ne réussissiez pas. M. Harding a un droit incontestable à la place. Mais si vous me permettez de dire à l'évêque que vous ne voulez pas entrer en concurrence avec M. Harding, je crois pouvoir vous promettre... quoique, pour le dire en passant, ce ne soit pas une promesse formelle, que l'évêque ne voudra pas vous laisser plus pauvre que vous ne l'auriez été si vous avez eu l'emploi de conservateur. » M. Quiverful était assis, silencieux, les yeux fixés dans le vide. Que devait-il répondre? Tout ce que disait M. Slope était vrai. M. Harding avait droit à l'hospice. L'évêque avait beaucoup de bonnes places à donner. L'évêque et M. Slope seraient des amis précieux, mais de terribles ennemis pour un homme dans sa position. Enfin, il n'avait pas de promesse écrite et ne pouvait forcer l'évêque à le nommer. « Eh bien, monsieur Quiverful, que me répondrez-vous ? »
« Oh, naturellement, ce que vous voudrez, monsieur Slope. C'est un grand désappointement.
Un cruel désappointement. Je ne puis nier, monsieur Slope, que je ne sois très pauvre.
Vous verrez, monsieur Quiverful, que vous gagnerez plus que ce que vous croyez perdre. »
M. Slope reçut de M. Quiverful une renonciation entière aux droits qu'il pouvait avoir à la nomination en question. Elle fut faite verbalement et sans témoin, comme avait d'ailleurs été donnée la promesse de M. Slope. M. Slope lui assura de nouveau qu'il ne serait pas oublié, et il reprit la route de Barchester, satisfait de pouvoir, dans l'affaire présente, plier l'évêque à ses désirs.